I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il y avait De Palma, Michael Mann, et c'est ça en fait, ça devait être Kevin Costner et De Palma.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Alors cette semaine, on part les terres d'Afrique pour parler d'un film d'aventure. Ce qui aurait pu être un grand film d'aventure, malgré tout quand même sa beauté. L'ombre et la proie de Stephen Hopkins. Je suis avec Rafik Djoumi pour en parler.
Oui.
Rafik, c'est un film que tu affectionnes beaucoup, je pense.
C'est un film que j'affectionne en tout cas plus que toi. Parce qu'on a eu pas mal de conversations là-dessus.
Ouais, à l'époque de la sortie du film.
Mais pas aussi, je pense, parce que moi j'ai été élevé à un cinéma plus classique, plus jeune, là où toi t'as grandi quand même avec des bons films de bien stéroïdes.
Non, mais des années 80, voilà. Mais je pense pas que c'était ça la problématique, je pense qu'en fait, et on va en parler, je pense que c'est un film qui porte clairement les stigmates en fait de l'intervention du studio,
ouais.
Des problématiques d'ego aussi sur le tournage, et du coup en fait c'est par rapport aux intentions d'origine qui sont très louables. Le résultat finalement donne lieu à quelque chose de l'ordre de... Alors aujourd'hui on peut le voir comme quelque chose d'un peu plus d'un film qui aurait pu être magnifique mais qui a été sacrifié, mais à l'époque on le voyait comme un produit de studio en fait qui essayait de justement de faire du cinéma à l'ancienne tout en essayant de rester dans la modernité, dans les années 90, et généralement, les studios n'y arrivent pas très bien quand ils essayent de faire
pas.
Ça. Quoi.
Non, de toute façon, il est évident que les années 90 n'étaient pas tendres avec tous les films qui essayaient de raccorder avec une certaine idée du classicisme, alors qu'évidemment, le classicisme, il est inscrit dans le récit et dans le projet, puisque au départ, celui qui a poussé ce projet, c'est le scénariste William Goldman, donc... immense légende hollywoodienne du scénario, qui avait entendu parler en 1984 de cette histoire en Afrique, parce que ça, un truc avait défrayé la chronique, celle des mangeurs d'hommes de Tsavo, dont il existe un livre en fait qui s'appelle The Man Eaters of Tsavo, qui a été écrit par celui qui supposément les a tués, donc le lieutenant-colonel John Henry Patterson. Donc Goldman à l'époque, s'était dit là l'occasion de faire un film à mi-chemin entre Lawrence d'Arabie et Les Dents de la Mer, en gros, puisque donc il s'agit de l'histoire d'un ingénieur en fait qui est appelé en Afrique parce que les travaux tardent, et ils tardent parce que il y a des lions qui sont, alors, semble-t-il,
ouais. Ça se passe à la fin du siècle. Du siècle dernier, mais en fait du siècle encore précédent.
Ouais,
voilà.
La fin du 19e.
Voilà, en tout cas à la fin du siècle dernier, quand le film a été produit. Et c'est donc effectivement l'histoire d'un ingénieur qui construit des ponts.
Un ingénieur de la couronne britannique, mais qui a des origines irlandaises, c'est important.
Et qui en fait est envoyé pour terminer un pont en 3 mois.
Ouais.
Et il découvre en arrivant que en fait il y a un lion qui règne en terreur en fait sur les terres, et que et il va devoir s'en débarrasser.
Et qui bouffe en gros les ouvriers.
Voilà, c'est
ça. Les ouvriers du coup refusent de bosser et qu'effectivement il va devoir s'en débarrasser et à un moment donné faire appel à un chasseur réputé. Voilà. Joué par Michael Douglas.
Là, il se trouve que c'est joué par Michael Douglas, on va en parler justement. Ouais. Mais alors, ce film, très beau titre anglais, très beau titre français, je trouve aussi, c'est-à-dire The Ghost and the Darkness, L'ombre et la proie, c'est vraiment. C'est un titre qui reste en fait en mémoire. Quoi. C'est vraiment. On en parle peu finalement des titres de films en général, mais celui-là, je trouve qu'il est extrêmement évocateur. Et en tout cas, moi, je me rappelle que ces titres-là m'avaient donné envie vraiment de voir le film en premier lieu. Quoi.
Oui.
C'est aussi un film qui s'est fait, c'est-à-dire parce que tu parlais de William Goldman et il a écrit un scénario qui est effectivement entre Lawrence d'Arabie et Les Dents de la Mer, donc on peut imaginer qu'il y a déjà la volonté de faire un grand film épique. À l'arrivée, le film a plusieurs problèmes justement par rapport à ça, Mais il faut déjà préciser qu'avant que ce soit un film de Stephen Hopkins avec Michael Douglas, et produit d'ailleurs par Michael Douglas, oui. qui ne devait pas jouer le rôle, voilà, en l'occurrence, mais qui s'est imposé à la dernière minute. Ça ne devait pas être donc un film avec Val Kilmer non plus. C'était un film qui était prévu à la fin des années 80 pour reformer le succès, l'équipe à succès en fait des Incorruptibles, c'est-à-dire Brian De Palma à la réalisation et Kevin Costner dans le rôle principal.
Et Costner voulait le faire, vraiment, parce que c'est tout un classicisme vers lequel lui tendait.
Ouais, bien sûr. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de l'année 1990, il y a eu un petit bide assez retentissant dans le système hollywoodien, qui était le bide du bûcher des vanités de Brian De Palma. Et c'est ce qui fait qu'en fait, le studio a retiré ses billes et a décidé de ne pas faire le film, malgré le star système de Kevin Costner, qui venait pour le coup, lui, de cartonner avec Danse avec les loups. Donc c'est un film qui a été mis en stand-by pendant quelques années. Apparemment, il y a quand même Michael Mann qui était aussi prévu sur le coup, et je pense que ça devait être à peu près à la période où il a fait Le Dernier des Mohicans, parce que c'était jusque-là un cinéaste quand même assez urbain. Et là, il a démontré qu'il pouvait faire du cinéma d'aventure aussi, et du coup, je pense que le studio a été intéressé par.
Et Paramount a essayé d'intéresser Tom Cruise aussi.
Dans le rôle principal, Et donc voilà, donc c'était quand même un très gros projet pour la Paramount à cette époque-là, et ça a été lancé. Je pense, en fait, la production a été lancée vraiment dans cette logique-là. Quoi.
Dans les possibilités de casting, il y a eu l'inévitable Sean Connery, dont on parlait déjà sur l'épisode Congo, en fait, mais par rapport à le personnage du grand chasseur, c'est Connery l'incarnait absolument parfaitement. Anthony Hopkins, Gerald Depardieu.
Ouais. C'est vrai.
Et donc, effectivement, Michael Douglas, qui au départ n'était là qu'en tant que producteur et qui a finalement décidé de. Alors, lui, c'est comme ça qu'il le présente, quoi, de faire avancer le Schmilblick en se mettant au casting. Donc,
alors, effectivement, on a une perception du film qui est un petit peu différente. Moi, je l'ai un peu revu quand même à la hausse pour plusieurs raisons. Il y a déjà la lumière absolument somptueuse. Je perds le nom du chef.
Vilmos Sigmund,
merci. Qui est absolument incroyable. La façon dont l'Afrique est filmée, c'est absolument magnifique, quoi. Et il y a en fait cette volonté de classicisme, en fait, qui détonne même à cette époque-là déjà de la part de Stephen Hopkins, parce que Stephen Hopkins, on en a parlé avec Julien Dupuis dans un épisode de Stéroïdes sur Predator 2, c'est quand même un gros clipper très prononcé, qui a déjà son style bien à lui, qui a fait à cette époque-là, en fait, c'était le réalisateur de Predator 2, de Freddy 5, de Judgment Night voilà, qui sont quand même des films très très stylisés. Son film d'avant, en fait, il a eu une vraie grosse entrée dans le tentpole des blockbusters hollywoodiens de l'été avec Blown Away, même si Predator 2 était un gros budget, c'était pas forcément un film qui était prévu pour cartonner l'été. Là, c'est Blown Away, c'était le cas, et ça n'a pas vraiment donné lieu à un succès, mais parce que c'est un film qui est sorti plus ou moins en même temps que Speed, et c'était sur pareil un peu des démineurs de bombes. Enfin, c'est un des trucs de Speed, des sujets de Speed. Mais voilà. Donc en fait, c'était malgré tout quand même très étonnant de le voir en fait s'attaquer à ce sujet-là. De comprendre que c'était un cinéma vers lequel il tendait et qu'il a vraiment essayé de mettre en avant, jusqu'à ce que finalement le film se fasse un peu saboter par le studio, quoi.
Bah déjà saboté par son tournage, puisque donc ça a été un tournage extrêmement compliqué. Alors bon, de toute façon, les tournages en Afrique sont jamais forcément des parties de plaisir. Enfin, ça dépend des régions où tu tournes, mais là, pour le coup, ils ont vraiment tourné dans des régions éloignées.
Sans parler de la chaleur.
Sans parler de la chaleur, avec les insectes, les orages. Il y a eu des inondations avec des pluies torrentielles, des attaques d'hippopotames apparemment. Donc des trucs vraiment auxquels les Américains américains sont tout à fait habitués. Et carrément, les inondations ont carrément fait des morts, en fait, dans les membres de l'équipe. Donc c'était, et puis ça flinguait aussi, ça emportait les décors. Des révisions donc, de script systématiques, parce qu'effectivement, une fois que Michael Douglas a décidé de prendre le rôle de Remington, après qu'un nombre incalculable de comédiens ait été considéré, hein, parce que je crois qu'il y a même... je sais pas, De Niro, enfin, ils ont tout fait, quoi. Il a considéré aussi qu'il fallait que le personnage soit réécrit pour correspondre à son image publique, qui à l'époque était celle justement de Basic Instinct et consorts, quoi. Donc rien à voir avec le personnage du grand chasseur blanc qu'il aurait été censé faire, parce que le personnage d'après William Goldman, il avait été calqué sur Burt Lancaster, en fait. Pardon, oui, c'est ça, c'est Burt Lancaster. Enfin, vraiment, un mec à la cool, à l'ancienne, quoi. Et Michael Douglas, c'est pas du tout ce qu'il portait.
Non, et en plus, ce flegme-là, déjà, il le joue pas du tout comme ça. Et l'autre problématique, en fait, c'est qu'on a...
Il y avait eu À la poursuite du diamant vert, où il jouait un rôle à peu près similaire, sauf que c'était une comédie. Parce que le truc avec Michael Douglas, c'est qu'à aucun moment, on a l'impression que le mec a vécu plus d'une nuit dans la jungle. Quoi. Il a un look urbain.
À la limite, tu pourrais très clairement dire ça de la part de... Comment il s'appelle
De Val Kilmer.
De Val Kilmer. Mais alors,
mais lui, il joue celui qui arrive. Débarque en fait.
Ouais. Et puis l'autre truc aussi avec Val Kilmer, c'est qu'on a beau dire, enfin voilà, ça c'est pareil, c'est une redécouverte pour moi aussi en revoyant le film. Val Kilmer, j'ai jamais considéré, je pense que c'est plutôt un bon acteur, mais j'ai jamais considéré que c'était vraiment un, malgré le fait qu'il soit beau et charismatique dans l'absolu, j'ai jamais considéré que c'était quelqu'un qui portait vraiment un film sur les épaules, qui pouvait faire ça. Et en fait, quand il joue Batman, c'est chez Schumacher, c'est déjà une première problématique. Mais disons que c'était très problématique de le voir faire du Star System à cette époque-là. Pour moi, il sabotait pas mal de films. T'avais notamment son interprétation dans Le Saint, qui était vraiment catastrophique.
Et Batman.
Voilà. Moi, je pense que Val Kilmer, c'est le meilleur acteur qui puisse se cacher derrière son rôle. Quand il fait les Doors, par exemple, ce genre de choses, quand il fait Jim Morrison, qu'il essaye vraiment de disparaître, c'est là où il est le meilleur. Et là, en fait, en l'occurrence, c'est quand même un film sur lequel il est quand même mis en avant, et il est étonnamment sobre, c'est-à-dire juste après donc l'île Docteur Moreau, où il n'était absolument pas sobre du tout.
On va dire. Il pouvait pas, personne ne pouvait être. Alors justement, oui, donc on va pas s'attarder sur l'île Docteur Moreau, parce qu'il y a carrément un documentaire qui a été fait sur ce tournage totalement improbable.
Lost Souls, voilà, qui est pas un documentaire, c'est un documentaire qui est pas très bien filmé, c'est un documentaire qui voilà, mais en fait qui est passionnant. Qui raconte surtout l'histoire de Richard Stanley et qu'on vous conseille vraiment de voir parce que ça se bouffe tout de suite. Enfin, ça dure 1h40, je crois, 1h50 et ça passe tout seul, quoi. C'est vraiment, si vous êtes intéressé par la façon dont les films se fabriquent, voilà, c'est un documentaire. Je crois qu'il n'y a pas Val Kilmer, il n'est pas interrogé, il n'y a pas tout ça, mais en fait, c'est vraiment passionnant. Et effectivement, ce tournage de L'île Docteur Moreau, c'est un tournage catastrophe pour plein de raisons encore différentes, d'interventionnisme de studio, etc., etc., de problématiques de réalisateurs virés, et en fait de Val Kilmer qui partait déjà en sucette à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire qu'il était plus ou moins en divorce avec sa femme, et apparemment les tabloïds se sont donnés à cœur joie.
Il était effectivement tout le temps pas attaqué, mais épinglé par les tabloïds dans tous les coins. Effectivement, l'idée du docteur Moreau avait atteint le cerveau de tous ceux qui avaient participé de près ou de loin à l'opération. Alors, c'est de l'ordre de la rumeur, mais effectivement, il y avait cette rumeur comme quoi, alors, dans mon souvenir, c'était les producteurs du Saint qui avaient fait un voyage en Afrique pour aller à la rencontre de Val Kilmer et qui, arrivant sur le plateau, en gros, on leur dit ça fait 3 jours qu'on l'a pas vu.
De l'ombre et la proie.
Voilà, de l'ombre et la proie. On leur dit ça fait 3 jours qu'on l'a pas vu et qu'apparemment il s'était réfugié dans une cabane
perdue au fin fond de la savane.
Et que c'était impossible de l'approcher parce qu'il tirait sur tout ce qui bougeait, en fait. Il y avait des animaux morts autour de la. Voilà, et qu'en gros, il était parti se bourrer la gueule, oublier. Bon, ça reste une rumeur, on n'a pas de confirmation. Stephen Hopkins, lui, a vraiment toujours insisté sur le fait que Val Kilmer, pour lui, a été investi.
Et ça se sent, au final, quand tu regardes le film. Hein. C'est ça aussi qui est très intéressant. Je pense que, pour le coup, c'est un des rares films qui peut vraiment, je trouve, porter sur ses épaules la plus forte raison quand tu le mets face à Michael Douglas qui est en roue libre en fait. Voilà.
Et bon,
Michael
Douglas est plus, peut-être plus le problème, du film. Donc oui, non, Stephen Hawking a bien sûr expliqué que c'était un véritable cauchemar et que du coup, ben, je pense aussi que sa mise en scène qui se voudrait classique, elle est pas pu tenir parce que ce classicisme-là, c'est un classicisme qui nécessite du temps et de la mise en place. C'est faire des grands mouvements de grue à la Sergio Leone au-dessus des trains, etc. Alors il y en a quelques-uns dans le film, mais en fait on voit bien que le film a été fait d'une certaine façon à l'économie, avec un nombre incalculable d'astuces que Hopkins va utiliser ensuite beaucoup par la suite sur des tournages rapides en fait.
C'est plus flagrant, ouais, je trouve, dans les scènes justement de nuit, et horrifique. C'est-à-dire que quand parce que il y a l'attaque du lion en fait. Enfin, des lions en l'occurrence, qui est mise en scène. Alors j'ai envie de dire, justement, en fait, c'est là où peut-être sur le papier c'est les dents de la mer, mais à l'image c'est pas du tout les dents de la mer. C'est vraiment, et c'est cuté cette façon. C'est aussi, je pense, monté de cette manière-là. C'est monté comme quelque chose de très vif, de très machin, et ça fonctionne pas en fait. Je pense que t'as deux films en fait à ce moment-là. T'as le grand film classique et t'as ce moment en fait où c'est peut-être pas un slasher, mais bon, c'est quand même filmé d'une certaine manière, en fait. Et je pense que c'est très difficile, à mon sens. Et tu vois qu'en fait, à des moments, ils essayent de se concentrer sur les victimes. Mmh, donc, en fait, la façon dont elles vont bouger, qu'ils voudraient être à la dent de la mer. Sauf que, évidemment, malgré les qualités que je peux trouver à Stephen Hopkins, ce n'est pas Spielberg non plus.
Et aussi,
Je pense qu'il n'avait pas forcément le contrôle, encore une fois, du montage. Parce que le truc, c'est qu'il manque clairement, apparemment, 40 minutes au film. Mmh. Ce qui en aurait tout de suite. Il l'aurait tout de suite, je pense, transformé en grand film épique, ouais. Ce qu'il essaye d'être, mais que tu as l'impression que c'est un film sur lequel on met un espèce de costume trop petit, quoi.
Ouais. Donc, il a un problème aussi qui est de ne pas oser rentrer dans une forme de cinéma fantastique, parce que le récit d'origine, donc si ces fameux mangeurs d'hommes de Zavo ont marqué leur temps, c'est parce que c'était totalement improbable ce qui s'est passé. Je crois que je sais plus, mais je crois que c'est 130 morts, un truc comme ça. Bon, c'est qu'en fait tout a été tenté pour buter ces deux lions et que personne n'arrivait à les tuer. Donc du coup ils sont devenus des divinités locales en fait. Et ce côté de dieu intouchable, le film ne met jamais les pieds dedans. Et du coup il y a pas mal de scènes qui sont basées sur des faits rapportés qui en deviennent elles improbables. Je pense notamment à la scène où ils sont bloqués dans une espèce de caravane dont ils ont essayé de faire un piège.
Oui, alors ça, c'est vraiment la scène qui marche pas du tout.
Ouais. Et ils sont tous attirés sur un lion qui est juste devant eux et il n'y a aucune balle qui le touche.
Et à plus forte raison qu'en fait, ils te présentent ça en allant chercher les trois plus grands tireurs du coin qui sont donc qui tirent à bout portant, quoi.
Ouais, c'est ça.
Non, mais c'est une scène très problématique et je pense qu'il n'y a pas que ça. Alors, plus que fantastique, je dirais mythologique. Moi,
oui.
C'est-à-dire le refus de la mythologie, parce que c'est quelque chose que William Goldman a beaucoup travaillé, a beaucoup réfléchi en fait dans son écriture depuis toujours, et ça je pense que c'était clairement sur le papier, mais il fallait effectivement le transcender, le mettre en scène, et je pense qu'il y a ça, et il y a, alors je spoil, hein, mais bon, nos auditeurs savent qu'en général on spoil les films, à plus forte raison quand ils ont maintenant 25 ans d'existence, justement la mort du personnage de Michael Douglas, c'est aussi quelque chose dont on sent que ça a été complètement saboté en fait au montage, parce que d'un seul coup ce personnage qui était présenté comme le grand chasseur qui disparaisse de cette manière-là, je pense que si c'était volontaire de le traiter de cette façon-là, il fallait vraiment arriver à trouver l'angle pour le mettre en scène et que ce soit surprenant en fait pour le spectateur, ce qui je trouve n'est pas le cas, et du coup on a vraiment l'impression qu'il manque quelque chose en fait à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est du fait du montage, est-ce que c'est du fait de que peut-être Michael Douglas, à mon sens en tout cas, n'ait pas vendu le personnage tel que ça aurait dû l'être, tu vois.
Je pense que c'est plutôt du montage en fait, voilà. Parce que c'est l'époque où les films étaient balancés en projection test, et vu le public des années 90, là on a vraiment affaire au film qui est susceptible d'avoir le maximum de mauvaises notes en fait de ce public là et donc du coup encore une fois d'essayer de transformer un film en ce qu'il n'est pas, quoi.
Un grand film épique en film d'action,
en actionneur,
voilà.
Et ça peut pas marcher. Néanmoins, encore une fois, donc les astuces multiples que Stephen Hopkins a dû trouver pour contrer les difficultés vont s'avérer, je pense, importantes, puisque ça, c'est mon petit truc perso, hein, mais pour moi, le nom de Stephen Hopkins n'a pas été suffisamment rappelé dans ce qu'on a appelé le nouvel âge d'or des séries télé, alors qu'à mon sens, c'est lui qui a vraiment donné le là de la mise en scène, en fait, de la nouvelle mise en scène des séries télé, et notamment avec la série 24 heures, dont il a assuré les six premiers ou sept premiers épisodes, je ne sais plus.
En fait, il a supervisé les 12 premiers épisodes, ouais. Mais il les a pas tous réalisés, mais il les a supervisés, et du coup, en fait, il y a une vraie, effectivement, il y a une vraie mise en scène. En fait, il y a une vraie économie de narration dans la façon de te faire fonctionner les twists, ce qui sera complètement perdu, je pense, avec les autres saisons. Et puis d'ailleurs avec la deuxième partie de la saison 1 en vrai. Mais effectivement, il avait cette économie d'arriver à impliquer le spectateur dans le moment du récit, ce qui fait qu'en fait, on questionnait pas tellement, on va dire, les rouages narratifs qui pouvaient être un petit peu brinque-ballants. Mais ça se sent en fait que ça disparaît, enfin qu'il a plus ou moins lâché le truc à mi-parcours, quoi. Je pense à l'époque tu avais une théorie là-dessus qui était assez intéressante, c'était que en fait la mi-saison avait été écrite bien en amont et que en fait du coup quand le truc a été greenlighté, ça se sentait qu'ils ont dû rajouter le reste derrière. Voilà, et du tout on se retrouvait avec des rebondissements de séries télé assez classiques, voire clichés, comme
dont un puma.
Alors ça c'est dans la saison 2, mais dans la première saison notamment le personnage qui se retrouve amnésique, et comme c'est quand même censé être en temps réel, elle est amnésique à peu près 3 heures,
voilà, c'est ça.
donc c'est assez ça fonctionne pas très bien,
surtout par rapport donc au style visuel en fait qu'il a un stylé, donc il a montré comment faire de la mise en scène de télé riche avec peu de moyens et dans des conditions très 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 difficiles, et à mon avis ça c'est quelque chose qu'il a appris à la dure sur The Ghost in the Darkness. Si vous voyez, il y a une scène que moi j'aime bien dans laquelle Val Kilmer est en train de lire une lettre de sa femme, et à ce moment-là il y a une attaque dans le camp des lions, et en fait ils courent et doivent réagir à toute vitesse. Il y a son collègue qui lui jette un fusil dans les mains pendant qu'il est en train de courir, etc. Si vous regardez le découpage de cette scène, vous verrez qu'il y a à la fois des plans qui manifestement ont demandé de la mise en place, donc c'est-à-dire qui dit mise en place dit perte de temps, et plein de plans raccords que tu peux faire très rapidement, en fait. Et c'est l'alternance entre ces plans classieux et ces plans commando qui donne au film cette identité, justement, à mi-chemin entre film classique et film pétaradant des années 90, quoi. Et donc, il se décide jamais à aller de l'un ou de l'autre. Mais ça lui donne, du coup, cette identité visuelle un peu spécifique, que personnellement, j'aime bien, malgré donc, tous ces défauts de narration, et ils sont très, très nombreux. Il y a aussi un problème, je trouve, par rapport à l'utilisation des lions, parce que alors, bien sûr, ils te disent qu'il n'y a qu'une seule scène dans laquelle ils ont dû utiliser de l'animatronique, etc. Ouais, enfin, mon œil, quoi. Il y a un nombre incalculable de plans où tu vois bien que c'est pas des lions, quoi, si tu veux, sans parler d'une tentative d'incrustation numérique à un moment donné, lorsque le lion se jette sur un ouvrier en plan large, quoi, qui est pas très, très heureuse. Bon, ça, on peut toujours l'excuser, mais...
Bon, déjà, c'était l'époque, et puis... Mais c'est clair qu'en fait, il y avait beaucoup, beaucoup, post Jurassic Park, il y avait beaucoup, beaucoup de tentatives d'animaux... J'allais dire réaliste, parce que quand je dis réaliste, c'est des animaux dont on sait à quoi ils ressemblent, hein, si tu veux, contrairement aux dinosaures où en fait on n'a que des représentations. Moi je me rappelle Double Team l'année suivante, en fait, de Tsoyark, où il y avait des tigres en images de synthèse aussi. Donc là, effectivement, tu as un ou deux plans comme ça et tout. Moi, je notais aussi un truc, c'est que tu as parlé de 24 heures et c'est important de le signaler. Je pense que c'est aussi le dernier vrai film, je trouve, où Stephen Hopkins essaye vraiment. C'est-à-dire que je me demande jusqu'à quel point il a perdu quelque chose en fait dans ce tournage, parce que le film suivant, donc, c'est un pur film formaté de son temps qui était perdu dans l'espace.
Oui, dont je recommande vivement le commentaire audio. Lequel il passe 2 heures à expliquer pourquoi c'est de la merde.
Parce que c'est de la merde, faut être honnête. Et mine de rien,
je trouve de la merde bien filmée. Mais c'est de la merde quand même. Hein. Mais en termes de purement de cadre, Lost in Space, ça reste très propre. Après c'est juste...
Il faut avoir un trip là-dessus aussi, si tu veux, au final, parce que tout le reste du film ne tient absolument pas
de la
goût. Il y avait ce remake de Garde à vue,
Mmh. On avait vu en salle à l'époque, si tu te souviens, qui était vraiment très mauvais aussi. On s'était vraiment demandé où était passé, où était passé Stephen Hopkins. Et puis après, bah, il y a des prods Dark Castle, des trucs comme ça. Donc en fait, je pense qu'en fait, souvent dans les carrières de réalisateurs, il y a à Hollywood, il y a des moments charnières en fait où ça peut passer ou casser. Mmh. On en a souvent parlé. Vis-à-vis de, par exemple, John Carpenter. Moi, j'ai toujours été persuadé que si The Thing avait été un succès, oui. John Carpenter serait peut-être pas Spielberg, mais pas loin, en fait. C'est-à-dire, ça serait le Spielberg de l'horreur, vraiment, en fait. Ça serait un mec. Je parle pas de qualité visuelle, je parle pas de ça. Je parle dans son style à lui. En fait, il aurait cette réputation-là. Ce qu'il n'a absolument pas, ça l'a cassé. Mm. Et je pense que Stephen Hopkins, c'est un peu la même logique. C'est-à-dire, je pense que ce film l'a cassé. Il y avait le potentiel de faire un vrai grand film épique. Mm. Il y a la mainmise du studio sur le projet pour essayer d'en faire quelque chose d'immédiatement vendable, vendeur et attirant pour le public en fait, visé, qui n'est pas celui pour lequel le film a été fait à l'origine. Et je pense que ça a saboté cette possibilité de devenir un grand cinéaste plutôt qu'un yes man en fait pour les studios. Et du coup, ça se sent, moi je trouve, dans le reste de sa filmographie. C'est-à-dire que on peut reprocher beaucoup de choses à Predator 2, à Judgment Night, Blown Away.
Bah, c'est les films d'un mec qui apprend son métier. Hein, aussi.
Oui, mais c'est aussi des films solides. C'est-à-dire que c'est des films en fait, qui fonctionnent finalement. Bon, Blown Away, c'est un peu plus discutable. Il y a peut-être plus de problématiques, mais il y a au moins 2-3 scènes vraiment inspirées en fait, dans le film. C'est pas un podcast sur Blown Away, mais il y a une très belle scène en fait, autour du personnage de Lloyd Bridges, qui, moi, je trouve, fonctionne très très bien, en fait, qui a un vrai lyrisme et tout ça, etc., une vraie émotionnalité. Donc voilà, c'est ce qui n'est pas forcément flagrant en fait, de la part du réalisateur de Freddy 5. Donc du coup, je pense qu'il y avait... C'est un vrai... je pense que c'est un vrai... Ça aurait pu être un grand cinéaste. Mmh. Je pense qu'il avait cette étoffe-là, en fait.
Il aurait pu le montrer. Quoi. Un excellent artisan. Effectivement,
il peut être aussi un grand cinéaste. Ouais. Mais, ouais.
Et donc, ça l'a cassé. Alors moi, tu insistais sur la photo de Filmo Zsigmond, qui est effectivement assez somptueuse. Moi, j'ai souvent entendu dire qu'il n'était pas du tout satisfait. Alors, peut-être parce qu'il n'est pas satisfait du film tout court, parce qu'il y a aussi souvent cet aspect-là avec les chefs-op ou même les compositeurs, c'est que les mecs font un vrai boulot, ils se donnent à fond, et si le film n'est pas réussi, ils ont tendance du coup à tout dégager d'un coup, y compris leur propre travail.
Est-ce qu'il a tapé sur Maverick ? C'est ça le truc avec Vince.
Moi, j'ai entendu taper sur Ghost in the Darkness.
Oui, parce que Maverick, par exemple, si tu veux. Alors, effectivement, c'est de la confiture au cochon quand tu regardes la lumière de Maverick par rapport au film. Mais c'est pas son meilleur travail non plus avec Vince Sigmund. Donc, un autre
qui a pris ses distances avec le film et qui, pareil, a fait un boulot absolument remarquable, c'est Jerry Goldsmith à la musique. Alors, Goldsmith, en fait, c'était entiché de Les Bohèmes. Les Bohèmes, c'est un Africain qui a été découvert par Hans Zimmer sur un film qui s'appelait La puissance de l'ange, et qui en gros l'a fait venir à Hollywood quand Zimmer a fait le Roi Lion, quoi. Donc ils ont institué un truc que Goldsmith a utilisé sur le chef-d'œuvre des années 90 sur lequel on a fait un podcast qui est Congo, donc où déjà les bohèmes intervenaient.
Allez écouter ce podcast, voilà. Je pense lui-même est un chef-d'œuvre du podcast en fait, mais c'est automatique quand tu parles d'un chef-d'œuvre en fait, je pense.
On fera jamais, surtout aussi, Congo, on fera jamais aussi bien que Parole de flic, mais
on
prend la deuxième place. Et donc les bohèmes se retrouvent aussi sur The Ghost in the Darkness, mais cette fois-ci pour en faire justement quelque chose de beaucoup plus classieux, dans lequel Goldsmith reprend l'héritage de la musique qu'il avait fait pour La canonnière du Yangtze de Robert Wise. Donc grand score épique à l'ancienne, et justement en lui mettant des sonorités et une rythmique beaucoup plus moderne. Alors il y a un petit truc pour les cinéphiles sympathiques, comme le personnage de Val Kilmer est un Irlandais. Le thème du film est basé sur une musique traditionnelle irlandaise qu'on entendait déjà dans le John Ford de Rio Grande. Alain va se faire un plaisir de nous faire écouter ça.
Thank you.
Et donc, voilà, Goldsmith reprend exactement cette balade dans le thème, sauf qu'il rajoute les rythmiques africaines. Et donc, dans l'attaque des lions, on a la voix de les bohèmes et de ses chanteurs qui prend le devant et qui est vraiment, vraiment sublime, qui fait que musicalement, on est quelque part entre Congo et le 13e guerrier. Donc, c'est pas souvent qu'on sortira une phrase comme vois. Et donc, je recommande vivement le.
On pourrait chercher le chaînon manquant entre Congo et le 13e guerrier. Bon, il y a Michael Crichton, évidemment, mais voilà quoi.
C'est vrai que quand tu mets tous ces éléments côte à côte, donc encore une fois, un film en cinémascope avec une photo de Zygmunt, une musique très inspirée aussi de Goldsmith, un scénario de William Goldman, un Val Kilmer qui a cherché à bien faire et un réalisateur qui se voudrait quand même compétent, tu dis merde, c'est pas la honte quoi, c'est pas.
Non, mais c'est la honte pour le studio en fait, c'est-à-dire que c'est ça qui est étonnant, c'est que. Tu sens que ça devait être un grand projet et tu sens qu'ils se sont dit bon bah en fait on va récupérer les restes et
c'est la honte des années 90 en fait. Je pense que c'est les années 90 qui sont responsables plus que le studio lui-même.
Non mais ce que je veux dire par là si tu veux c'est que alors évidemment là je te dis ça mais il y a absolument aucun film qui me vient en tête mais je pense que c'était effectivement un truc où aujourd'hui on va dire on le voit avec Disney et sa mainmise Lucasfilm en fait sur la façon dont ils peuvent gérer on va dire les Star Wars et faire des reshoots très prononcés, c'est pas alors peut-être parce que les films n'ont pas n'aspirent pas à cette grandeur là, c'est pas flagrant en fait ces reshoots ces machins, c'est pas flagrant que le film ait sa beauté sous cet angle là. Je pense que les problèmes ils sont bien en amont en fait. Là c'est flagrant, c'est-à-dire dans un film comme Ghost in the Darkness, l'interventionnisme du studio est flagrant. On sent qu'il y a un grand film qui est complètement étriqué.
Il y a des plot holes dans tous les coins, effectivement. Voilà. Ouais.
Et des problématiques de montage dont on a parlé, ce genre de choses. Quoi. Du coup, moi, je maintiens qu'à l'époque, en fait, c'était presque. En fait, je ne m'étais pas concentré sur les qualités, on va dire, je m'étais vraiment concentré sur les défauts du film. Et c'est vrai qu'à la revoyeur aujourd'hui, c'est un film beaucoup plus intéressant que ce que j'avais pu moi en tout cas entrevoir à l'époque. En tout cas un film qui a une vraie tenue visuelle la plupart du temps, un film qui a des vraies aspirations nobles aussi, parce que ça il faut le dire quoi, mais qui a subi les foudres du système en fait de son époque quoi.
Et une très belle affiche je trouve aussi, on en parle pas souvent des affiches mais ça a son rôle dans l'appréciation d'un film, et celle-ci avec les deux têtes de lion qui forment une espèce de yin et de yang, je la trouve plutôt bien pensée.
Alors c'est pareil, c'est un film qui a finalement un peu disparu malgré son star
avec des éditions DVD bien pourri, j'ai pas vu la copie du Blu-ray.
En fait, il y a pas de Blu-ray, il y a un Blu-ray allemand.
Ah ben voilà.
Voilà. Ouais. Donc c'est les Allemands qui l'ont sorti. Donc si vous voulez le récupérer, c'est par là-bas que ça se passe. Si vous êtes vraiment fan du film, quoi, ou si vous voulez le redécouvrir, à tout le moins, je pense pas qu'il y ait de sous-titres dessus, français en tout cas. Je pense que c'est quand même un film d'aventure à l'ancienne à redécouvrir, à réévaluer éventuellement, comme ça a été mon cas.
En tout cas, un film anachronique des années 90 et qui mérite
de vue. Merci Rafik.
Merci Steph.
Merci Alain, merci à la technique. Merci à nos auditeurs, merci aux tipeurs. Pour nous soutenir, c'est tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Vous pouvez nous écouter sur les podcasts, sur les agrégateurs de podcasts habituels. SoundCloud, Deezer, nous on a migré sur Acast, c'est par ici que ça se passe maintenant. Et moi je vous dis à la prochaine avec un autre film.